C'est parti donc pour le module 2, le module d'introduction à Hyper-V Replica. D'abord, quel usage d'Hyper-V Replica dans un plan de reprise d'activité ?
L'usage, il est simple en fait, c'est simplement de pouvoir répliquer de manière asynchrone des machines virtuelles d'un point A vers un point B. Donc, c'est-à-dire d'un site principal à un site secondaire, ou d'une salle serveur à une autre salle serveur dans un autre bâtiment.
Alors, ça veut dire quoi ? J'ai des machines virtuelles qui sont en cours de production ?
Oui, donc tu vas avoir des machines virtuelles qui vont tourner sur de l'Hyper-V, Hyper-V en serveur simple ou Hyper-V en mode cluster. Et ces machines virtuelles, en fait, vont être réellement répliquées, transférées au travers du câble avec un petit delta qui sera donc un RPO, qu'on définira tout à l'heure. Donc, le petit delta, donc c'est pour ça qu'on parle d'asynchrone. Et donc, ces machines virtuelles vont exister sur un site secondaire en mode arrêté, synchronisé avec le petit delta, et le cas échéant, si le site primaire a un désastre majeur, on va pouvoir en fait redémarrer les machines virtuelles sur le site secondaire.
D'accord. Donc ce qui nous montre le petit schéma là, c'est qu'on a en fait un site primaire avec du stockage par exemple sur des serveurs de fichiers en utilisant du SMB, et puis on voit que ça passe par du câble, par un lien WAN entre nos data centers, et que je vais répliquer sur d'autres hyperviseurs qui eux sont sur du stockage SAN, donc pas d'interdépendance au niveau du stockage local.
Oui, là le schéma, le but n'est pas de dire quel est le bon choix SAN versus partage de fichiers, c'est juste de dire qu'on est agnostique entre la source et la destination quant à l'endroit où sont stockées les machines virtuelles. Voilà. Mais on va en reparler par la suite. Donc, Hyper-V Replica, c'est la réplication asynchrone. Elle se fait en continu. Donc, machine virtuelle exécutée à la source, machine virtuelle arrêtée sur la destination. Donc le RPO, donc on parlait tout à l'heure de RPO, Recovery Point Objective, ici, il va être de 30 secondes, 5 minutes ou 15 minutes. Donc ça, ce sera la fenêtre de données que vous allez potentiellement perdre si le site principal tombe et que vous redémarrez les machines virtuelles qui ont été répliqués. Donc bien entendu, le choix de 30 secondes versus 5 minutes versus 15 minutes va dépendre de plusieurs facteurs. Il va dépendre effectivement de la bande passante dont vous disposerez, il va dépendre du nombre de machines virtuelles que vous allez vouloir synchroniser, il va dépendre des I/O disques qui sont faits sur les différentes machines, etc. On en parlera à la fin sur les bonnes pratiques et comment dimensionner et tout cela. Et puis ça va dépendre également de vos objectifs à vous, en termes de RPO, parce que finalement, vous n'avez peut-être pas une très grosse criticité sur les éléments à redémarrer. Des fois, 15 minutes, ça peut suffire. Donc, comme je l'ai dit, le réplica de la VM sur le serveur de réplica est en attente. Il est à l'arrêt, ce qu'on appelle un warm standby mode. Donc, en gros, la machine est à off et puis elle peut redémarrer en quelques secondes ou quelques dizaines de secondes en fonction des performances disques de l'hôte de virtualisation sur lequel sont ces machines. Le RTO, donc le temps pour redémarrer l'ensemble ici, il est estimé, alors là c'est une estimation, il n'y a pas de valeur qu'on définit dans une case, de 10 à 30 minutes, parce que on pourrait dire le RTO, si c'est quelques secondes pour démarrer une VM, dans ce cas-là le RTO serait de quelques secondes. Non, parce qu'en général ce n'est pas une seule machine qui va refaire toute la production, il y en a plusieurs, donc il va falloir séquencer cet ordre, il va falloir surveiller également que les redémarrages se font bien, et puis il y a également le temps de réaction de l'IT qui va dire mon data center est plus disponible, je choisis de basculer mon PRA. Et du coup, le temps de choix, de dire « Ok, on va basculer sur le PRA, on va se connecter à distance, déclencher les opérations, contacter les bonnes personnes », ça peut prendre un peu de temps. C'est pour ça qu'on estimait entre 10 et 30 minutes. C'est plus du temps ici humain que du temps réellement technique pour être tout à fait précis. On peut avoir plusieurs clichés instantanés grâce au techno VSS, normalement, qu'on a dans Hyper-V. Donc faire de la restauration applicative cohérente, entre guillemets, pour les machines Windows, je précise.
Ouais. Là, l'idée, elle est de se dire, j'ai remarqué que j'ai eu un plantage, par exemple, je viens de le remarquer, mais en fait, la corruption, elle est apparue il y a 2 ou 3 heures. Du coup, je peux revenir un peu plus en arrière, vu uniquement, plus que le dernier réplica, c'est ça ?
Voilà, c'est ça. Peut-être que le data center s'est mis à brûler partiellement et que les services sont atteints au fur et à mesure. On peut se dire, on va tous les faire redémarrer sur une même base de temps. Du coup, on peut avoir plusieurs retours en arrière possibles sur ces réplicas, en fait. Et puis, quand on va travailler sur le data center de secours, le temps qu'on reconstruise le data center principal ou la salle principale ou le rack principal, eh bien, une fois que le nouveau matériel sera opérationnel, l'idée, c'est de faire une resynchronisation sur le site primaire, donc de la VM primaire du réplica. Donc, on aura travaillé sur le réplica. Et puis du coup, le réplica va rebasculer, on va faire un renversement de réplication pour renvoyer le réplica sur le site primaire. Voilà, donc ça sert finalement Hyper-V Replica. C'est un rôle, donc c'est une fonctionnalité native d'Hyper-V depuis Windows Server 2012, si je ne dis pas de bêtises.
Mm-hmm. 2012.
2012, ouais. Exactement. Et puis il s'améliore avec 2012 R2 et bien entendu 2016. Alors les scénarios, Arnaud, d'utilisation et de déploiement.
Alors le scénario pour tout ça, bah, ça va être effectivement de faire une réplication entre deux data centers, un site principal, un site secondaire. Ça peut être aussi un data center et puis Azure, mais là ce sera l'objet d'un autre cours. Ou tout simplement, et on a vu ça sur le marché apparaître, ça peut être un data center, par exemple d'une petite organisation, pourquoi pas, et puis un hébergeur, un fournisseur de services, et le service qu'il va nous fournir, c'est effectivement de la réplication de machines virtuelles. On va passer par Internet pour envoyer les machines virtuelles dans le data center secondaire, par Internet ou d'ailleurs par un lien privé, hein. C'est aussi une alternative qui est tout
Exactement.
À fait possible.
Ça, c'est des solutions que certains clients veulent avoir, parce qu'ils veulent, par exemple, localiser leurs données de réplication dans le même pays que le pays d'origine, par exemple.
Alors, qu'est-ce qu'on a mis dans Windows Server 2012 R2 par rapport à l'implémentation de base de 2012?
Bah déjà, on a dans 2012 en fait le RPO. Donc le Recovery Point Objective, donc c'est-à-dire le temps de données, la quantité de données potentiellement perdable, était de 5 minutes. Mm-hmm.
Voilà.
Était donc de 5 minutes. Mm-hmm. Et donc, on n'avait pas le choix. Donc, il n'y avait pas de réglette, il n'y avait pas de... C'était, voilà, à T-1, on avait des machines qui étaient réutilisables avec T-5 minutes.
Voilà.
Certains clients nous ont demandé d'avoir une fenêtre plus large et d'autres une fenêtre plus courte. Alors, on n'a pas fait une réglette à la seconde. Mm-hmm. On a donc désormais trois options possibles, 30 secondes. Donc, on peut redémarrer un environnement à T-30 secondes avec une perte de 30 secondes de données, ou 5 minutes, ou 15 minutes.
On a le choix parmi ces trois valeurs.
Exactement.
Réplication étendue, c'est-à-dire appliquer pour Hyper-V Replica le fameux principe du ceinture
et bretelles.
Donc j'ai un site A, je prends une réplication vers un site B, et depuis ce site B, je vais aussi pouvoir faire partir la réplication vers le site tertiaire, vers un site C.
Donc on a le réplica du réplica, en fait, qui va s'appliquer. Donc là, effectivement, il y a peu de chances de perdre sa production. Mm-hmm. Mais du coup, ça permet des scénarios, on le verra peut-être après, mais... de dire ben, je réplique de ma salle machine numéro 1 vers ma salle machine numéro 2 et ensuite vers mon data center numéro 2 en réplication étendue.
Et puis on a fait évoluer également le support de Linux pour avoir un mécanisme un petit peu équivalent au VSS Snapshot à l'intérieur de Windows. C'est équivalent au niveau du file system, ça nous permet comme ça d'avoir y compris les fichiers ouverts utilisables dans le réplica qu'on a sur une machine virtuelle Linux.
Exactement. Petite évolution sur Windows Server 2016. Si on a une machine virtuelle sur laquelle on ajoute à chaud des disques durs, que cette machine virtuelle avait été configurée à l'origine pour être répliquée sur un autre serveur Hyper-V, eh bien, l'ajout des disques à chaud virtuels dans la machine d'origine va automatiquement générer la création d'un disque sur la machine répliquée avec réplication de ce disque de manière automatique. Voilà. C'est le petit plus de Windows Server 2016 sur la partie Hyper-V Replica.
Alors, la réplication étendue, on en parlait, hein, le principe du ceinture et de la bretelle. On peut avoir effectivement un premier hôte sur un site, ensuite un deuxième sur un autre site, sur un data center secondaire, ou alors, et puis en troisième point, pardon, partir sur un data center d'un fournisseur externe. Après, pareil, site 1, site 2, data center d'un fournisseur externe, et hôte sur site, data center d'un fournisseur externe, et puis un data center d'un autre fournisseur externe encore, pour là répartir vraiment un maximum les risques sur différentes plateformes d'hébergement. On va pouvoir évidemment en tirer parti en utilisant également System Center. System Center, plus précisément Virtual Machine Manager, VMM 2012 et fortiori 2012 R2.
Et 2016 également.
Et 2016. Permettent de tirer parti de ça en synchronisant avec Azure Site Recovery la réplication entre les différents fabriques VMM, les différentes solutions de gestion de cloud privé de VMM. Un exemple de fournisseur externe, on en parlait, un parmi d'autres qui avait annoncé cette fonctionnalité d'héberger vos réplicas pour vous.
Alors réplication Azure, tu en as posé un petit mot tout à l'heure. Effectivement, c'est possible de répliquer des machines virtuelles qui sont sur du 2012, l'Hyper-V de 2012 R2 et ultérieur, condition que les agents Azure Site Recovery étaient configurés et qu'on ait également fait la configuration dans Azure. Sans rentrer dans le détail, il va y avoir un coût MVA similaire à celui-ci, mais dédié effectivement à la réplication d'Hyper-V dans Azure. Et donc, je vous encourage à aller le voir, elle sera disponible. On rentrera réellement dans le détail de la solution technique. Qu'est-ce qu'on peut répliquer à l'intérieur de ces VM ?
Ben, la question, c'est pas qu'est-ce qu'on peut répliquer, puisqu'on peut à peu près tout répliquer, mais la question, c'est est-ce que l'application qui est à l'intérieur de la machine virtuelle va supporter ça et quelles sont les précautions opérationnelles qui sont nécessaires au retour en ligne de la machine. Il y a évidemment des indications et des choses à faire à l'intérieur de différentes applications comme SQL, comme Windows, pour le rôle de contrôleur de domaine ou pour Exchange. Donc un certain nombre de choses à faire et à pas faire, et pour ça, quoi de mieux qu'un article de KB qui décrit ce qui est possible de faire. Alors, quelques opérations à faire sur les serveurs SQL, quelques petits flags à mettre sur les disques qui est nécessaire quand on exécute ça sur du 2012, pas sur du R2, on a la détection automatique. Sur des contrôleurs de domaine Active Directory, ben on a là forcément des recommandations en matière de version minimale de l'Active Directory pour ne pas perdre de données, pas avoir de problème d'USN rollback, etc.
Exactement.
Et puis, pour Exchange, l'histoire est un petit peu plus succincte vu que c'est pas supporté.
Alors c'est pas supporté dans le cadre où on a un Exchange qui est dont les rôles sont répartis sur une architecture distribuée. Mais si l'ensemble des rôles sont sur un même serveur, dans ce cas-là, ça passe.
Donc on peut faire un PRA d'un lab en fait, c'est ça?
Non. C'est-à-dire que c'est une petite structure, je pense à une TPE ou une petite PME, et qu'il y a juste un serveur Exchange, tout a été installé dessus, il est possible d'utiliser Hyper-V Replica pour faire ça. À savoir, c'est que Exchange comme SQL ont des, avec leur système, soit le DAG, soit le SQL Always On, permettent effectivement nativement, au niveau applicatif, d'avoir des systèmes également de réplication. Donc c'est simplement pour ça.
Alors, quelle topologie de déploiement on peut utiliser pour tout ça?
Donc, quatre scénarios sont possibles. Le premier, c'est que vous avez un serveur Hyper-V avec des VM et vous allez faire de la réplication de ces VM sur un second serveur Hyper-V, le cas le plus simple. Vous pouvez avoir également un serveur Hyper-V ou plusieurs serveurs Hyper-V, mais qui sont indépendants les uns des autres, et les faire répliquer leur VM sur un cluster Hyper-V.
D'accord.
On peut avoir un cluster Hyper-V et qui va envoyer ses réplicas sur un simple serveur Hyper-V.
Ce qui n'est pas déconnant, on peut avoir pas forcément le même budget sur le site distant.
Exactement, et là l'idée c'est vraiment de pouvoir répondre à tous les cas possibles imaginables. Là celui-ci c'est vraiment de dire, si j'ai finalement peu de machines qui sont réellement importantes pour mon plan d'opérativité, je peux limiter mon nombre d'achats et mes capex en fait sur mon site de secours en prenant simplement un serveur et non pas un cluster. Dernier cas, le cluster à cluster, où là effectivement je peux partir là encore d'un cluster Hyper-V à destination d'un deuxième cluster Hyper-V. Là encore, on peut jouer sur les tailles et sur les capex pour optimiser effectivement le plan d'activité. Comme on l'a dit, il y a peu de chances qu'on redémarre l'ensemble de toutes les ressources. Donc, c'est-à-dire qu'on peut partir par exemple d'un cluster qui serait un 4 ou un 8 nœuds sur le site principal et avoir juste un 2 ou un 4 nœuds sur le site de secours pour simplement démarrer les machines qui sont nécessaires au retour à la production et pas forcément l'ensemble de toutes les VM du système d'information.
Et ben voilà pour ce qu'on peut faire avec Hyper-V Replica dans le module suivant. On va voir comment le faire, la mise en œuvre.